Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes lundi 14 mars. Bonne journée et bienvenue au 98.5. Ce matin, quelques flocons de neige sur la métropole. Ça demeure couvert. Température cependant au-dessus de zéro, 3 degrés. Demain mardi, on prévoit soleil et nuages, 2 degrés. Et le mercure qui devrait monter jusqu'à 8 degrés mercredi, probablement 12 pour la journée de jeudi. Le point sur la guerre en Ukraine avec Tetiana Ogarkova, qui est journaliste, qui encore une fois se trouve dans l'ouest du pays de l'Ukraine. Et on sait que l'ouest a été particulièrement ciblé par les dernières frappes des Russes. Tetiana, d'abord, comment allez-vous ce matin?
Bonjour, je vais bien. Je suis en sécurité. À part des alertes aériennes à répétition, depuis quelques nuits, on a toujours des alertes. À part ça, tout va bien.
Très bien. Alors, il y a eu quand même, il faut le dire, là, intensification des frappes dans la grande région de l'ouest de l'Ukraine.
C'est vrai, vous avez absolument raison. Hier, il y avait un événement, on a eu un événement inouï, puisque la base militaire à Yaboriv, à 20 kilomètres de Lviv, a été touchée en faisant 35 morts et plus d'une centaine de blessés. C'est une base militaire aérienne performante qui a été lieu d'entraînement pendant des années. Et notamment, Justin Trudeau aussi a visité cette base il y a quelques années. Il y avait la présence internationale sur cette base. Heureusement, au moment de la frappe, il n'y avait pas d'internationaux sur la base. Mais ça veut dire que l'armée russe veut montrer qu'ils ont des mains suffisamment longues pour atteindre des buts, des objectifs à l'ouest de l'Ukraine. Et je rappellerai, c'était aussi à une dizaine de kilomètres, un peu plus qu'une dizaine de kilomètres de la frontière polonaise, c'est-à-dire depuis membre de l'OTAN. Donc la menace approche en fait depuis de l'OTAN et ça risque d'être, on risque une escalade en plus en fait.
Maintenant, est-ce que vous avez des nouvelles de la capitale Kiev? On parle ce matin d'au moins 2 morts. C'est un minimum dans une frappe contre un immeuble résidentiel.
Exactement. Donc voilà, il y a une partie de ma famille qui est à Kyiv. On est tous très préoccupés. Il y avait un immeuble de 9 étages qui ont été touchés par un obus. On ne sait pas pour l'instant de quel côté cet obus venait. Il y a, en causant justement plusieurs blessés et 2 morts confirmés, encore à voir, il y avait un feu. C'est la région de Obologne. Obologne, c'est un quartier relativement au centre de Kyiv. Donc il y avait aussi la plante d'Antonov qui a été touchée. C'est-à-dire que la menace approche Kyiv. On a aussi des nouvelles, des actualités préoccupantes du côté est de Kyiv, du côté de Brovary, malgré le fait que la colonne de chars a été détruite il y a quelques jours. Et apparemment, il y a encore de la force russe, de l'armée russe qui sont présents là, qui essayent de s'approcher de Kyiv. Il y a des couloirs humanitaires de villages à côté de Brovary. Et il y avait aussi, il y a 2 jours, il y avait un couloir humanitaire qui a été bombardé et donc en faisant 7 morts et 2 enfants en fait. Donc l'armée russe continue à tirer malheureusement sur des civils. Donc Kyiv tient bon, il n'est pas encerclé en ce moment-là. Donc côté sud, côté ouest, ça va plutôt bien. La capitale est toujours liée à d'autres régions de l'Ukraine, mais dans la banlieue nord et dans le côté est, les nouvelles sont plutôt alarmantes, plutôt mauvaises.
Entre-temps, on annonce une nouvelle séance de discussion, de pourparlers aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des attentes ou vous demeurez quand même assez réaliste là, sur ce qui se passe sur le front diplomatique?
Oui, c'est avec grande attention qu'on a écouté hier la communication de Monsieur Podolak, qui est conseiller dans le bureau du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Il nous a informé que après 3 séances de négociations face à face, bon, en présence physique, les délégations continuent les négociations par les visioconférences. Donc c'est en route. D'après sa communication, on a bien compris, en tout cas, ce que traitant le côté ukrainien, c'est que les Russes commencent à prendre à comprendre un peu la réalité. Ils disent que le parti ukrainien dit que en fait les Russes commencent à négocier et plus poser que des ultimatums, mais tout est en cours, en fait rien n'est sûr. On est très méfiant, je vous cacherai pas, on est très méfiant vis-à-vis de négociations possibles tant qu'il y a des bombardements tous les jours sur des civils. Mais bien sûr il faut négocier, il faut que la Russie prenne conscience de la réalité, y compris des échecs militaires et des pertes en fait de l'armée russe, et aussi de l'inutilité et de le côté absurde de cette guerre qui fait énormément de morts, énormément de dégâts et qui sert absolument à rien puisque l'Ukraine ne va pas céder et donc les ultimatums russes sont inacceptables.
Très bien, merci beaucoup Tatiana et on se reparle demain. Soyez bien sûr extrêmement prudente. Merci d'avoir été avec nous. Tatiana Ogarkova qui est journaliste, elle est dans l'ouest de l'Ukraine. Et c'est vrai que depuis les derniers jours, les bombardements se sont intensifiés. Ce qu'on remarque, c'est que les Russes frappent les grandes villes. Plusieurs sont assiégées. Je vais vous parler dans quelques instants de Mariupol. Mais il y a d'autres cibles maintenant, et surtout dans l'ouest du pays. On a vu, elle le disait, tout près de la frontière avec la Pologne, une base militaire. Ça veut dire que malgré le discours ouvert sur dialogue de paix, en tout cas, accord potentiel peut-être pour cesser les hostilités, il n'en demeure pas moins que ça frappe. Et justement, parlons de Mariupol. Ce matin, Le Monde publie un reportage qui résume ce qu'on a pu lire depuis quelques jours, c'est-à-dire que les réserves d'eau sont pratiquement épuisées, qu'il y a des gens qui meurent carrément de faim, de soif. Il fait moins 8 degrés à l'extérieur. Et dans son témoignage, donc 19 jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est une ville qui est isolée actuellement, c'est peut-être l'une des villes qui subit le pire siège. Déjà pratiquement, et ça c'est un chiffre conservateur, plus de 2000 citoyens ont été tués. Et on se rend compte que les Russes frappent de façon délibérée des bâtiments résidentiels, des zones densément peuplées. Hôpital pour enfants, infrastructure urbaine. En 24 heures, imaginez, là, en 24 heures, les citoyens ont essuyé 22 bombardements. 100 bombes ont déjà été larguées sur Mariupol depuis le début de la guerre. Et là, les gens sont évidemment extrêmement inquiets. Il n'y a pas de possibilité de sortie. Il n'y a pas de corridor qui tient. Et cet Ukrainien qui est originaire là, de Mariupol parle de ses parents qui sont bloqués dans la ville. Alors, c'est un portrait, probablement la ville la plus touchée jusqu'à maintenant, depuis le début. Et peut-être un mot pour ajouter, donc, concernant cette visioconférence qui est prévue, que le New York Times, qui disait hier que la Chine apportait un soutien très direct, même un soutien financier, en raison des sanctions économiques qui ont été imposées par les alliés, donc à la Russie, que la Chine avait choisi son camp. C'était pas étonnant en soi. On sait que Chinois et Russes ont toujours été très près. Mais comme Jean-François Lépine le répète, les Chinois aiment aussi la stabilité. Ils sont pas très confortables avec cette invasion en Ukraine. Alors la Chine a démenti, donc, apporter cette aide concrète à la Russie, du moins pour l'instant. Alors, se fait le tour. C'est le bilan ce matin. Ça veut dire qu'on en est à la 19e journée et que les frappes continuent et que la résistance tend bien que mal, essaie de s'organiser. On poursuit la revue de presse. Je vous dirais que hier, puis samedi, mais disons qu'avec la température d'hier, on a senti, je pense collectivement, une espèce de bouffée de liberté dans le vrai sens du terme, puis une bouffée de fraîcheur. Avec le changement d'heure, il y avait de la neige samedi, pas autant que ce qu'Environnement Canada avait prévu, en tout cas pour Montréal. Mais hier, donc ensoleillé, température un peu froide, mais somme toute agréable. Et encore, en fin de semaine, samedi, la disparition du passeport vaccinal. Donc, on retrouve les activités. Il n'y a pas de preuves à présenter à l'entrée. Le karaoké est recommencé, puis les gens ont l'air de follement s'amuser, puis tant mieux. Et avec le changement d'heure, donc, c'est la marche vers le printemps. Puis je vous le disais tantôt, avec les températures qui sont prévues cette semaine, beaucoup de soleil, puis le mercure qui va grimper, possiblement jusqu'à 10-12 degrés vers la fin de la semaine. Alors, tout ça pour vous dire que, après une traversée qui a été pas facile, je pense aux décisions qui ont été prises par la santé publique, bon, par exemple à Noël, en fait au jour de l'an, de tout arrêter, puis de resserrer, puis de reconfiner, puis de mettre des mesures. Là, on se dit « enfin ». Et le besoin de socialiser, de parler avec les autres, de voir les autres, je pense, est assez juste. Et tout indique que même s'il y a encore des cas, que le nombre d'hospitalisations baisse pas très vite, un nombre de décès, 12, 13, 14, 15 par jour, demandais au docteur Boileau vendredi, mais qui sont ces gens qui meurent? Puis des gens qui, dans certains cas, même plusieurs cas, ont déjà une série de problèmes chroniques de santé, donc des gens qui sont vulnérables, puis il y a des gens aussi qui n'ont pas été vaccinés puis qui ont toutes sortes de complications. Bref, on est en route vers une certaine normalisation, puis, comme on dit, d'apprendre à vivre avec le virus. Et on va recevoir le ministre Christian Dubé plus tard ce matin, mais ce qui est important, c'est de noter aussi le virage qu'on est en train de prendre en santé, parce qu'on a des leçons à tirer de la pandémie, le nombre de lits, les plans d'urgence, puis qu'est-ce qu'on va faire pour les patients en attente de chirurgie. Tu sais, il y a souvent des gens qui cherchent un médecin de famille, qui veulent consulter, puis il y a ceux qui ont été placés sur une liste et replacés sur la liste parce qu'on pouvait pas, malheureusement, les opérer. Alors, il y a un paquet d'enjeux, puis les élections s'en viennent, puis on comprend que ça va être un des enjeux importants. Dans la presse ce matin, on raconte l'histoire, on parlait de la Russie il y a quelques instants, et de la Chine, de l'agence canadienne qui aurait gardé en poste pendant 3 ans un chercheur, un scientifique, qui était en fait une taupe et qui aidait une entreprise chinoise. Vincent Larouche nous raconte ça ce matin. L'homme travaillait donc pour l'agence spatiale. Il habitait Brossard. Je précise qu'il n'est pas encore accusé, que ce sont des dénonciations faites, entre autres par les services canadiens de renseignement et de sécurité, et que la GRC a mené une enquête. Mais ce qu'on raconte là-dedans, c'est que l'homme en question aurait donc aidé à développer ce que la Chine a, ce qu'on appelle un spatioport, et appelons ça donc un modèle Longue Marche 8. C'est un projet qui a été développé d'une espèce de constellation de satellites avec le gouvernement chinois. Et la société s'appelle SpaceT. Et a réussi donc à établir ça. Et on pense que celui qui travaillait ici sur la Rive-Sud a fourni de l'info. Alors, au-delà de ce statut de taupe, là où ça devient particulier, c'est que on aurait informé l'agence à plusieurs reprises de la présence d'une taupe et que l'agence n'aurait pas fait grand-chose. Et ce projet chinois est majeur. Et donc, c'est pas la première fois là qu'on parle de l'agence spatiale. Rappelez-vous, quand une entreprise voulait venir s'installer, une entreprise chinoise, puis les services de renseignement disaient, c'est comme ouvrir la porte à de l'infiltration puis à de l'espionnage industriel. Alors donc, on aurait laissé cette taupe pendant un certain temps fonctionner. Également, ce matin, parlons du prix du carburant, on vous le disait. En France, ils ont décidé de remettre à la pompe une forme d'allègement, une forme, si on veut, d'escompte. Et là, je disais ce matin, c'est 15 centimes le litre. Ça a été annoncé dans une entrevue samedi. Et disons que ça a été dénoncé par plusieurs, un peu comme on a vu ici le débat. Est-ce qu'on réduit cette taxe sur l'essence pendant quelque temps pour ensuite la ramener? Est-ce qu'on accorde un montant direct d'aide dans le budget qui s'en vient à Québec? Alors, on a eu ce débat-là, puis tout ça pour vous dire qu'en France, ils l'ont également. Pour ce qui est de la course à la direction du Parti conservateur, Patrick Brown, le maire de Brampton, va donc se présenter. Il a annoncé dimanche qu'il entre dans la course. Alors, vous avez déjà Jean Charest, Pierre Poilievre, Leslie Lewis, et ainsi qu'un député indépendant qui, lui, se présente. Et là, ben, ça va être à suivre, les deux premiers, deux figures dominantes, Charest et Poilievre, comment le jeu d'alliance va se faire, puis surtout comment le recrutement en vue de l'élection va se passer. On a vu dans les sondages, mais il faut faire bien attention parce que ça sont les gens qui ont des sympathies pour le Parti conservateur, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accès à la liste des membres et tout ça. Alors, c'est sûr que ça va être une bataille serrée, puis pas nécessairement très, très propre, parce que là, ça, les deux ont du nerf et les deux sont des guerriers, puis les deux promettent la victoire. Et quand Jean Charest arrive puis dit « Mais moi, je vais vous faire gagner, puis on va se débarrasser des amateurs comme Justin Trudeau », il est rendu même à l'étape de la prochaine élection. Aussi, ce matin, je vais vous parler d'une étude qui a été faite et qui est publiée dans The Gazette et qui va faire pas mal jaser. Ça concerne les allophones du Québec. Et c'est un chercheur de l'Université du Québec à Montréal qui explique, après analyse des résultats, que la loi 101 a fonctionné au Québec, c'est-à-dire que les allophones, non seulement ont appris, parce qu'on les envoyait à l'école française, donc ils ont appris le français, mais qu'un nombre important d'eux évoluent avec leur langue maternelle, mais aussi avec le français. Et que le français, en gros, sera toujours menacé, bien sûr, en Amérique du Nord, mais que le travail de francisation donne des résultats et que c'est nettement mieux que certains osent le penser. Et ça arrive au moment où il y a tout le débat sur, par exemple, l'accès au cégep anglophone. Il y a eu tout le débat sur Dawson. Mais c'est intéressant de voir ça en disant, et le chercheur s'appelle Calvin Veltman, et pour les gens, il écrit en français puis il enseigne en français. Et il dit que de plus en plus, on se rend compte que des gens parlent français, ont la capacité et le font. Ça ne veut pas dire qu'ils sont branchés sur la culture québécoise à 100%, mais qu'ils ont, contrairement à d'autres générations, la capacité de parler deux puis trois langues. Ce que une analyse plus poussée des données de Statistique Canada semble indiquer.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Deux ans après la pandémie, il y a toujours évidemment un certain nombre de mesures qui restent, mais l'important, c'est de regarder un peu vers l'avenir. D'abord, comment préparer le réseau de la santé, surtout si jamais il y a une autre vague ou un autre virus. Puis également, comment répondre aux besoins des Québécois qui se cherchent un médecin, puis des Québécois aussi qui se demandent à quel moment ils vont pouvoir être opérés avec le report des chirurgies. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je vous pose la première question de base. Vous l'avez dit, on a pris beaucoup de mesures pendant cette crise-là pour protéger le réseau de la santé. On manque de lits dans le réseau de la santé. Comment allez-vous faire pour ajouter des lits dans le réseau de la santé?
Bien, il y a un enjeu de personnel puis il y a un enjeu physique. On a en ce moment à peu près 18 000 lits qu'on appelle dressés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à recevoir des gens. Et c'est ce qui explique à peu près le 2 lits par 1000 habitants. Mais par contre, il nous manque de personnel parce qu'on pourrait facilement monter jusqu'à 22 000 lits si on utilisait tous les lits disponibles. Ça, c'est la première chose, donc le manque de personnel. Et je crois que dans nos plans, étant donné les nouveaux hôpitaux qu'on construit, ceux qu'on rénove, etc., on va être capable aussi d'augmenter le nombre de lits. Donc, c'est une combinaison de plus de personnel et plus de lits qui va faire qu'on va être capable d'augmenter notre capacité hospitalière.
Mais ça veut dire que pour ce qui est du matériel, c'est relativement facile. Dans le terme de décision, là, vous mettez plus de lits, vous construisez. Maintenant, voilà. Pour attirer des employés, là, Vous allez faire ça comment?
Ben, on a déjà commencé parce que, rappelez-vous, là, depuis septembre, on a mis en place des programmes pour attirer des gens. Ben, premièrement, ce qu'on appelle d'attraction, mais de rétention pour retenir ceux qui étaient là, de passer plus de gens, d'infirmières, entre autres, à temps plein, ce qui a bien fonctionné. D'ailleurs, c'est un des programmes qui va continuer dans la prochaine année. Mais on a aussi des programmes de formation de jeunes infirmiers ou infirmières pour qui on a donné des bourses. Donc, c'est sûr que ça se fera pas du jour au lendemain, mais je pense qu'on est capable d'aller rechercher des gens. Maintenant, le changement de culture qu'on amène en santé, je vous ai toujours dit, il y a 50 000 personnes qui sont absentes de leur travail en ce moment, sur un potentiel de 310 000 personnes. On en a 50 000 qui sont en absence de congé de maladie, d'absence prolongée. C'est énorme, ça, 50 000 sur 300
000. Mais c'est pas un signe d'un climat de travail qui est pas bien bon. Bon,
tout à fait, tout à fait. Quand moi je suis plus dans l'organisation du travail. Si j'avais à mettre le doigt là sur le bobo là, c'est principalement de l'organisation de travail. Alors, les infirmières ont raison quand ils disaient mais pourquoi on a autant de TSO, de temps supplémentaire obligatoire? C'est devenu une méthode de gestion, ça, qu'on obligeait les gens à rester là parce que c'était plus facile, c'était moins coûteux que d'avoir du personnel un peu en surplus. C'est là que je dis que c'est une question d'organisation de travail. Puis une des choses que les infirmières ont demandé, puis on est d'accord, puis Mme Lebel a négocié ça dans les conventions collectives qu'on a signées l'an dernier, c'est d'être capable justement de déléguer l'organisation du travail, donc la gestion des horaires, pour que ça se fasse localement. C'est un gros, gros changement, ça. Plutôt que de faire ça dans le 6, puis envoyer les horaires partout, puis que des fois, une infirmière sur trois se présente pas parce qu'elle avait une bonne raison de pas se présenter, puis là, on lui obligeait à celle qui était restée sur place de faire du temps supplémentaire. On peut pas dire que c'est de la bonne organisation du travail.
Mais quand je regarde ça, là, j'appelle ça affectueusement le mammouth de la santé, là, mais moi, ce que j'entends beaucoup, rigidité syndicale, modernisation à venir là, des appareils d'information, là, que ce soit les technologies, une certaine bureaucratie, puis une certaine complaisance, que ce que le politique veut, la machine ne suit pas tout le temps. Tout ça, là, est-ce que vous faites ce même genre de diagnostic de l'état de la machine?
La réponse est oui. Je pense que tout le monde sait, M. Arcan, puis que les solutions, là, ou en tout cas, avant de parler des solutions, que les problèmes, on les connaît bien. Ce que vous venez de décrire, là. Puis, je pense que mais des fois, ça prend un courage politique qui a peut-être pas toujours été là pour faire les bons changements à ce diagnostic-là. Alors, moi, je suis pas prêt à dire que c'est juste la faute des syndicats. C'est pas le cas.
Non, mais alors, tout ça mis ensemble.
Tout ça mis ensemble. Et c'est pour ça que lorsque je vois ma collègue, Mme Lebel, qui dit maintenant, on est prêt dans la prochaine convention, parce que là, on va recommencer à négocier pour la prochaine convention. Est-ce qu'on peut continuer de faire ces améliorations-là? Ben, c'est autant du côté du gouvernement à s'engager à pas faire de temps supplémentaire obligatoire, mais à demander aux infirmières aussi de participer à nos groupes de travail qui font de l'organisation locale de la gestion d'horaires. Vous me suivez? Mmh. Alors, est-ce que dans certains cas, est-ce qu'on serait mieux d'aller avec des fonctions de travail de 12 heures au lieu de 8 heures, mais que ça permet une meilleure organisation de travail, comme dans certains hôpitaux anglophones? Vous avez entendu ça souvent. Oui. Mais pourquoi on n'est pas capable de le faire du côté francophone, puis on est capable du côté anglophone? Voyez-vous, je pense que c'est des deux côtés. Autant du côté syndical, qu'il peut y avoir ces éléments-là, que du côté gouvernemental, mais on connaît le diagnostic.
OK, la reprise des chirurgies. C'est quoi le plan, là? Les auditeurs qui se sont fait reporter plus d'une fois, là, vous leur dites quoi ce matin?
Bon, alors, on sait qu'on rattrapera pas tout ça dans 3 mois. Là. Ce qui a pris 2 ans, on est passé de 100 000 chirurgiens en attente à presque 160 000. Donc, on a une augmentation des chirurgiens en attente de 60 000. C'est beaucoup sur 2 ans. On peut pas rattraper ça dans 2 mois. Mais ce qu'on a dit, puis ma docteure O'Patterney était très claire, en ce moment, le focus, c'est sur ceux qui ont plus que 12 mois. On en a à peu près 20 000 des 60 000 qui sont en retard de plus que 12 mois. Ça, c'est la priorité. C'est ça qu'on veut.
Peu importe la pathologie, là.
Peu importe la
pathologie. Quelqu'un qui dit, ben, c'est pas vital, c'est un genou, mais ça fait 14 mois que j'attends.
Ben, c'est ça. Alors, là, on est en train, j'espère, là, je me croise les doigts qu'on est capable de continuer à bien servir du réseau privé. On l'a dit, hein, que ça faisait partie des apprentissages de la pandémie d'être capable d'avoir de l'aide du côté des chirurgiens. On a eu plus que 85 000 chirurgies qui ont été faites par des cliniques privées.
Mais quand vous me dites ça, là, je le sais, beaucoup d'auditeurs au début pensaient qu'ils étaient pour payer, se rendent compte que c'est payé par l'État.
Ouais.
Mais compte tenu du nombre de patients que vous avez opérés, puis que vous l'avez dit, là, ça sera pas en 2-3 mois, là, avez-vous fait des ententes à long terme? Avez-vous un plan sur 2 ans avec ces cliniques-là en disant, voici, on va vous garocher là pour vous faire soigner? Parce que c'est la place qui est disponible.
Bon, ça, c'est notre défi de l'été. Je vais être très honnête avec vous. Là, quand on était en urgence sanitaire, puis là, on l'enlève l'urgence sanitaire dans les prochaines semaines. Quand on était en urgence sanitaire, on pouvait faire des contrats de gré à gré. C'était un des avantages. On disait, je pense qu'on a signé une trentaine de cliniques ou de contrats. Là, on pourra plus faire ça là, lorsqu'on n'a plus l'urgence sanitaire. Alors, on essaye de finaliser des ententes cet été, de renouveler certains contrats, parce que on sait que c'est la solution, c'est de passer par le privé en partie. Mais je vais vous dire, c'est un beau défi de cet été, ça, de renouveler ces contrats-là pour que les gens, pendant la prochaine année, on puisse faire justement baisser le nombre de chirurgies qui sont en attente depuis plus que 12 mois.
L'accès aux médecins de famille.
Oui, un petit projet.
Un petit
projet.
Pas certain que c'est un petit.
Non, mais je dis ça à la blague parce que je veux vous dire, là, vous n'entendez pas parler ces temps-ci, hein, depuis plusieurs semaines.
Mais j'en entends parler par mes auditeurs parce qu'ils se heurtent encore, là, ils cherchent à...
Mais on entend moins parler des médecins. Ce que je veux dire, c'est que je pense que...
Êtes-vous encore en chicane avec les médecins de famille?
Non, je pense que ça va beaucoup mieux. C'est ça que j'allais vous dire. Quand on entend moins parler dans les médias, là, je comprends que les gens vous appellent puis ils ont raison. On est presque plus de 900 000 personnes qui ont pas un médecin de famille. Mais encore une fois... puis j'ai eu des très bonnes discussions avec le docteur Amiot, là, celui qui a remplacé le docteur Godin depuis plusieurs semaines. Puis je vous dirais, particulièrement après la commission parlementaire qu'on a eue en janvier, qui avait été un petit peu houleuse. Mais on s'est rendu compte tous les deux qu'on avait un objectif. Un objectif, c'était que les gens puissent être pris en charge, mais pas nécessairement par un médecin. Puis, je vais vous dire encore une fois, c'est les deux parties qui se rapprochent. Là. C'est pas rien qu'un qui fait un côté. Exemple, du côté du gouvernement, on a dit, c'est pas nécessairement un médecin à prendre en charge. Ça peut être par sa clinique. Et ça fait une grande différence dans notre négo. Parce que les Québécois, là, je vais vous dire, c'est pas si important que ce soit un médecin qui les prenne en charge, non. Mais un professionnel de la santé. Ils veulent avoir quelqu'un qui dit, OK, je te donne un rendez-vous en dedans 36 heures ou 72 heures, puis on va voir c'est quoi ton bobo. Et ça, pour nous, je dois vous le dire, c'est un grand changement pour le gouvernement, d'accepter que ce soit pas nécessairement un médecin. Alors là, on retourne dans quelques semaines finir le projet de loi 11. Et de notre côté, on a dit aux médecins, on est prêt à faire ce compromis-là. Vous, en échange, dans vos GMF, donc dans vos groupes de médecine familiale, dans vos cliniques, êtes-vous prêt à prendre un engagement supplémentaire qui aura un professionnel qui va le faire? C'est comme ça qu'on va se rapprocher, puis c'est pour ça que ça va mieux.
Mais est-ce que ça veut dire concrètement qu'un Québécois là va pouvoir aller aller c'est une forme d'inscription dans le fond. Dire, OK, moi je veux aller à telle clinique où je peux aller. Quelles sont les places disponibles dans le réseau? Est-ce que les médecins vont rendre disponibles les places ouverte pour les patients?
C'est exactement l'entente.
Parce que là, ils n'aiment pas trop ça d'habitude. Ils n'aiment pas ça rendre ça public, puis ils veulent pas que le gouvernement se mêle de leur horaire trop.
Mais là, c'est ça le compromis qu'on est en train de négocier. J'irai pas trop dans le détail, mais oui, on est prêt à enlever la responsabilité individuelle du médecin, donc la mettre. Mais en échange, donnez-nous des rendez-vous pour que ceux qui soient encore sur une liste d'attente puissent appeler dans leur région, ce qu'on appelle la RLS, la région administrative, ou pour une clinique, d'être capable d'avoir un rendez-vous. Alors, je vais me croiser les doigts, mais je vous dirais que ça va très bien depuis quelques semaines.
La refondation du système de santé, là, vous avez dit 5 à 10 ans, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire.
Ben, il faut avoir une vue à long terme.
Ouais. Okay,
je vous le dis,
non, mais en fait, ma question, c'est, voulez-vous faire ça? Là? On arrive à l'élection, la campagne électorale va commencer, si c'est pas déjà ça. D'abord, êtes-vous candidat, puis voulez-vous garder la santé?
On va répondre ça tantôt. Je vais commencer par la question...
ça vous donne le temps d'y penser.
Il faut y penser comme faut. Non, j'ai bien réfléchi, mais écoutez, M. Arcand, il y a deux choses. Quand je dis que je veux être honnête avec les gens, on peut pas régler un problème qui dure depuis une cinquantaine d'années en un an. C'est impossible. Sauf que j'encouragerais les gens en leur disant, on a déjà commencé. Prenez juste par exemple ce que je viens de vous dire sur les médecins. Ça fait des années que ça traîne. Là, on est en train de le régler. Alors, le plan de santé, dans ma vision, à moi, il est déjà commencé. Est-ce que, puis je l'ai dit justement dans des entrevues, quand les gens nous disaient, bon ben, mettons un peu ce que vous me demandez ce matin, mettons la pandémie de côté, qu'est-ce qu'on va faire? Ben moi, pour vous dire, on va avoir un certain nombre d'actions là, dans le plan de santé qu'on va déposer qui vont être très claires. Il n'y aura pas de surprise parce qu'on les connaît. Vous m'avez demandé tantôt les diagnostics. On a parlé des infirmières. Là, on parle des médecins. On va parler de la santé publique. Parlons juste de la santé publique. Les gens le savent. Il y a eu des coupures dans la santé publique. On a vu on a été mal pris dans la première vague. Alors là, la commissaire à la santé, Mme Castonguay, dans son rapport de janvier, a été très claire. Elle a dit, écoutez, M. Dubé, il faut que vous soyez prêt maintenant, que la pandémie arrive cet été à l'automne, dans 2 ans, que vous soyez prêt un peu comme un exercice de feu. Ben, je vous dis, c'est déjà commencé. On a mis plus d'argent en santé publique. Vous avez vu les changements qu'on a fait avec le docteur Boileau. On va essayer d'avoir plus de fluidité avec les organismes comme l'INES, l'INESPQ, la santé publique. Des fois, c'est un peu compliqué tout ça. On a appris ça durant la pandémie. Fait que moi, je rassurerais les Québécois en leur disant, le plan de santé, pour moi, il est déjà commencé. Alors, quand on parle des fondations, ce que le premier ministre appelle les refondations, on détruit pas la maison de la santé, mais on dit, les fondations ont besoin d'être faites. Alors, ça veut dire quoi? On l'a dit tout à l'heure, le personnel, les systèmes informatiques. Alors, oui, Pour être dans les meilleurs au monde, c'est un exercice de 5 à 10 ans. Mais à court terme, on va la voir bouger l'aiguille. Moi, je dis qu'on la voit déjà. Alors,
Je reviens à ma question.
Ouais, ben, ça, c'est la question qui tue, là, vos lumières flashent.
Non, comme on dit, hypothétique. On est au mois de mars, l'élection est au mois d'octobre. Allez-vous être candidat?
Ouais. La première chose que je dis aux gens, moi, la réponse simple pour le moment, je le sais pas encore. Je vais vous dire pourquoi.
Vous le savez pas encore?
Je le sais pas encore. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'y crois tellement qu'il faut faire ces changements-là, que je veux être certain, quand on va déposer le plan, que les gens vont se rendre compte de tout ce qu'il y a à faire, mais que c'est possible. Le plan de la santé, il est plus grand que Christian Dubé ou que la coalition Avenir Québec. Il faut que les gens embarquent dans ça. Moi, c'est la première chose. Moi, j'y crois beaucoup. Si vous me demandez aujourd'hui, c'est sûr que ça me le tente d'être là. Mais moi, je veux sentir qu'il y a, que les Québécois...
Mais je veux juste comprendre, si vous décidez de vous représenter, c'est pour rester idéalement. Je comprends que c'est le PM qui décide, là, mais c'est pour rester à la santé, pour faire avancer le plan.
Ah, mais c'est sûr. Moi, je veux dire,
vous voulez pas aller dans un autre ministère.
Non, parce que je crois que c'est toute une question d'exécution, M. Arcand. De mon expérience dans le privé, là, puis je le dis avec beaucoup d'humilité, il y en a beaucoup d'entreprises qui ont des plans, mais c'est quand tu arrives à l'exécution, ça fonctionne pas. Moi, je veux m'assurer qu'on a un plan. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Ça va être déposé dans quelques semaines. Ça va être très clair. Le grand défi de ça, ça va être l'exécution de ce plan-là. Vos médecins, vous me l'avez dit, c'est un bel exemple. Est-ce qu'on va être capable de livrer cette marchandise? On sait ce qu'il faut faire avec les médecins. On sait ce qu'il faut faire avec les professionnels de la santé.
Ce que je comprends, vous dites, si je m'aperçois que je suis pas capable de livrer le plan, me représente.
C'est en plein ça, puis c'est comme ça qu'on va regarder, et vous allez le voir dans les recommandations qu'on fait, on va parler, on va dire, ben c'est quelle est la meilleure organisation du travail qu'on doit avoir à faire pour être capable de livrer ce plan-là. Moi, si j'ai la conviction...
Vous êtes en train de me dire, est-ce que je vais être capable de battre la machine ou c'est la machine qui... battre, c'est une image, là, ou c'est la machine qui va me sortir.
Ben, regardez là, le travail que j'ai fait avec Mme Savoie et son équipe. Ils en ont parlé en fin de semaine dans la presse. Moi, si je suis capable de garder cette complicité-là avec une dame comme ça et avec son équipe, on va réussir. C'est ça que j'appelle l'exécution. Puis ça, dans les prochains mois, quand on aura déposé notre plan puis qu'on aura reparlé aux syndicats, qu'on aura parlé à tous nos partenaires, à qui on parle en ce moment, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux.
Mais vous dites quoi au premier ministre qui doit se dire, Christian, qu'est-ce que tu fais?
Il y a hâte qu'on décide, mais moi, je lui ai dit qu'avant le début de l'été, là, on parle de mai-juin, on va laisser faire les annonces, mais d'ici ce temps-là, on sera capable de voir comment on va travailler dans les prochains mois.
M. Dubé, merci d'être venu.
Plaisir. Merci
Christian
beaucoup,
M. Dubé, ministre de la Santé.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Ben, la guerre continue, la Russie qui mène encore des offensives, déjà des villes bombardées, continue de faire l'objet de ces attaques. Il y a de nouvelles cibles qui se sont développées dans les derniers jours, notamment dans l'ouest de l'Ukraine. On ira dans quelques instants. Et puis en parallèle, reprise officielle d'un échange de pourparlers diplomatiques. Je fais le point d'abord sur les opérations militaires avec général Dominique Trinquant, qui est l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Général Trinquant, bonjour.
Bonjour.
Peut-être d'abord nous dire comment vous décodez actuellement la stratégie russe, c'est-à-dire que les principales attaques maintenant visent l'ouest de l'Ukraine.
Eh bien, je pense que la Russie frappe à l'ouest pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a de l'armement qui arrive de l'ouest pour équiper l'armée ukrainienne. Et donc, il s'agit de gêner cet approvisionnement en munitions et en armes. Et le deuxième point, c'est naturellement de mettre la pression maximum sur les Ukrainiens en leur disant qu'aucun point du territoire n'est à l'abri et que donc tout sera frappé, y compris les territoires les plus loin.
Pour ce qui est de la capitale, Kiev, on sent que l'armée russe est autour, que les gens organisent la résistance. Avez-vous l'impression qu'on est sur le point de voir la capitale être envahie? Est-ce que c'est l'étape ultime? Quelle lecture vous faites?
Moi, je vois plutôt la capitale assiégée que envahie. L'envahissement, c'est-à-dire les combats de rue dans Kiev, vont être extrêmement coûteux pour l'armée russe et très difficile. En plus, avec un symbole important pour les Russes, la capitale russe étant la petite Russie autrefois. Donc, je vois plutôt assiégé. Et sachant que l'armée russe, en revanche, contrôle quasiment toute la mer Noire maintenant, je pense que Kiev restera un instrument de négociation. Vous parliez tout à l'heure de la reprise de négociation, c'est-à-dire une pression maximum sur Kiev pour obtenir autre chose ailleurs.
Avez-vous l'impression que nous allons voir de plus en plus d'installations civiles, d'immeubles, de quartiers à être malheureusement ciblés par les Russes et donc beaucoup de pertes de vie chez les civils?
Oui, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que c'est la méthode du rouleau compresseur russe qui utilise beaucoup l'artillerie et l'aviation. Et la deuxième, c'est que l'armée russe apparemment a des problèmes de personnel. D'abord parce qu'elle ne peut pas utiliser les appelés puisque le président Poutine a dit qu'il ne le ferait pas. Alors on sait qu'il y en a qui ont été utilisés. Ils sont donc la Russie est obligée d'appeler à la rescousse les Tchétchènes, voire des mercenaires syriens. Ça montre qu'ils ont des problèmes de personnel. Et comment est-ce qu'on pallie le manque d'infanterie? Eh bien, en utilisant l'artillerie, en matraquant et en matraquant sans discrimination.
On a beaucoup parlé dans les derniers jours de l'utilisation à des armes chimiques, biologiques. Est-ce que vous croyez que c'est possible?
Alors, bien distinguer le biologique du chimique. Hein. Le biologique, si vous voulez, ce sont des maladies qu'on inocule. Ça me paraît très difficile à utiliser parce que les Russes pourraient eux-mêmes être touchés. En revanche, l'arme chimique, c'est l'arme en dessous du nucléaire qui permettrait, dans un combat en zone urbanisée, de neutraliser des zones en utilisant le chimique. Je note simplement que c'est nous, les Occidentaux, qui avons averti la Russie de ne pas l'utiliser, parce qu'après les menaces sur l'armement nucléaire, on pense que c'est ce qui pourrait arriver. D'autant que ça, c'est sujet à manipulation. On l'a vu en Syrie, elle était utilisée par les Syriens qui accusaient l'opposition de l'utiliser. Donc c'est une possibilité, mais la menace est suffisamment claire pour que j'espère les Russes soient raisonnables sur ce sujet-là.
Merci beaucoup, général Trinquant. Bonne journée, général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Maintenant, on va aller sur le terrain. Clémence Dibou est avec nous, journaliste en Ukraine, pour BFM TV. Clémence, d'abord, bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour à vous.
Vous étiez à Lviv le dimanche et là, présentement, vous êtes en route pour Kiev.
Exactement, c'est ça. On est parti ce matin pour faire le trajet Lviv-Kiev. Effectivement, depuis ce matin, en prévoyant beaucoup de temps parce qu'on ne savait pas ce qui allait nous attendre sur la route au niveau des checkpoints ou même des embouteillages.
Et là, on a noté dans les derniers jours, de plus en plus de bombardements dans l'ouest de l'Ukraine, des bombardements là, qui sont quand même très sévères.
Effectivement, depuis le début de ce conflit, en fait, l'ouest du pays, et donc à fortiori la grande ville de l'ouest de Lviv, était perçue comme une base arrière, en tout cas un endroit sûr pour pouvoir fuir pour les civils, par exemple, du Donbass ou de Kiev, de venir se mettre à l'abri à Lviv. Et effectivement, hier matin, dimanche, certains habitants se sont réveillés en voyant qu'une base militaire, pas très loin, à 40-50 kilomètres, a été bombardée, avec l'impression effectivement que la guerre leur est toujours un peu plus proche vers l'ouest et que donc il n'y a plus de zones sûres dans le pays et qu'ils se préparent à une guerre totale. Effectivement, Lviv qui se prépare de plus en plus. On le sent, par exemple, il y a des scotchs qui sont en train d'être accrochés aux fenêtres dans le centre-ville, ce qu'on ne voyait pas jusque-là, des scotchs, pour prévenir éventuellement des déflagrations suite à des bombardements.
Maintenant, comment ça se passe quand vous vous déplacez en Ukraine, c'est-à-dire quand vous partez de l'ouest, quand vous roulez vers la capitale, il y a des checkpoints, comment ça se passe?
Alors d'abord, les journalistes du monde entier, hein, parce qu'il y a des télés du monde entier et des médias du monde entier ici en Ukraine, on prépare notre voiture, c'est-à-dire qu'on la sigle, on met du scotch pour marquer qu'on est la presse, on prépare nos cartes de presse au checkpoint, et effectivement, au checkpoint, policiers ou militaires contrôlent les passeports, contrôlent les cartes de presse. En fait, ce qu'ils veulent surtout savoir, c'est s'il n'y a pas des infiltrés russes ou autres qui pourraient profiter d'une couverture de médias pour pouvoir avancer et circuler dans le pays. En général, ces checkpoints, ça se passe très bien, on passe, la presse peut circuler librement, à condition de montrer les documents adéquats, cartes de presse. Et puis, il faut savoir que maintenant, désormais, il faut aussi s'enregistrer en ligne auprès du ministère de l'Intérieur ukrainien pour pouvoir être journaliste sur le terrain.
Très bien, merci Clémence Dibou, donc, qui est sur la route de la capitale actuellement.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, quel est l'effet à long terme de la loi 101 sur la protection du français, la promotion du français? On sait qu'on est en plein débat actuellement, par exemple, sur l'accès au cégep anglophone et aussi, tout simplement, sur la protection du français, notamment à Montréal. Notre invité ce matin, Calvin Veltman, est sociologue, démographe, sociolinguiste. Il est à l'Université du Québec à Montréal, au département d'études urbaines. Il a fait une étude qui pose évidemment la question sur la francisation des immigrants. Donc, les allophones qui arrivent, qui vont à l'école française, est-ce qu'ils apprennent bien le français? Est-ce qu'ils apprennent aussi à vivre en français? Monsieur Veltman, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand. Vous me pardonnez mon accent d'immigrant.
Je pense que vous l'avez très bien maîtrisé. La question de base, vous avez regardé les chiffres puis vraiment tiré un certain nombre de conclusions sur l'efficacité de la loi 101. Est-ce qu'on peut dire que les enfants de la loi 101 apprennent le français tout en conservant leur langue maternelle, mais arrivent aussi à vivre en français?
Bon, mais ça, c'est une question difficile. Ce qu'on a, ce sont des données de recensement. Et, bon, il y a une étude sur mon site web qui touche la transmission de la langue chez les enfants. Et de manière générale, les langues allophones sont vouées à la disparition à relativement court terme. Ce qu'on a, ce sont des données qui montrent que le français occupe de plus en plus de place chez les allophones. Et depuis 2001 à 2016, quand il s'agit de choix entre le français et l'anglais, le français obtient de 75 à 80 % des adhésions comme langue parlée à la maison.
Il y a des gens qui vont trouver ça incroyable, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la misère à vous croire dans la mesure où on a l'impression que les allophones, ils vont à l'école française, ils apprennent le français, mais qu'ils vivent davantage culture anglaise ou anglo-saxonne ou américaine?
Bien, ce n'est pas ce que les données de 2016, le recensement le dit, ni l'évolution de 2001 à 2016. Un des grands problèmes avec les analyses traditionnelles du recensement, c'est le traitement des réponses multiples. Alors, vous et moi, nous connaissons tous les gens qui parlent français la journée longue, qui rentrent à la maison, ils parlent espagnol ou la langue arabe avec leur partenaire. Et là, ces gens-là sont comptabilisés par la plupart des analystes comme inexistants. Comme ils parlent toujours l'espagnol ou l'arabe à la maison, ils disent, ben, ils n'ont pas fait leur choix linguistique. Mais quand on analyse les langues secondes qui sont parlées dans ces maisons-là, le français aussi obtient une adhésion d'environ 75%.
Ce que vous dites, l'avez mentionné au début, c'est que les allophones, appelons ceux de deuxième génération, là, progressivement, ils perdent la maîtrise de leur langue maternelle.
Ben, c'est certain. Ils s'en vont à l'école française, ils parlent français la journée longue, s'ils ont des frères et sœurs, vont parler français avec les sœurs et les frères. Et on a trouvé ça déjà depuis 1984, quand on a réalisé une étude sur les Portugais à Montréal. C'est normal. L'attraction de la langue, une langue de caille, OK, on va dire ça de même, c'est très, très fort chez les jeunes. Et le texte que j'ai sur mon site web, sur la transmission, montre qu'il y a très peu des allophones qui ne parlent pas français ou anglais à la maison.
Mais l'image, oui, M. Veltman, l'image qu'on a, là, c'est quand même une immigration qui, contrairement à d'autres vagues, ont appris le français parce qu'ils sont allés là, à l'école française,
mais
qui vivent en anglais que Montréal. Je prends le cas de Montréal, on a cette image-là d'une métropole où le français est menacé et que beaucoup d'allophones, même s'ils comprennent le français, parlent le français, préfèrent vivre en anglais. Vous me dites que c'est pas vrai.
Vivre en anglais, vous voulez dire à la maison?
À la maison, avec les amis.
Bon, mais les statistiques ne prouvent ça. Ne prouve pas ça.
OK.
Pour l'île de Montréal, je vais vous donner juste deux chiffres rapides.
Oui.
La proportion des jeunes de l'armée maternelle française a tombé de 52% en 2001 à 47, quelque chose en 2016. La langue française parlée à la maison, soit comme langue principale, soit comme langue seconde chez les gens qui sont toujours allophones, ça a commencé à descendre d'1% de 2001 à 2011 et il a remonté d'une dixième de pourcent entre 2011 et 2016. Donc, les francophones quittent l'île de Montréal, mais le français, langue d'usage, reste.
M. Veltman, merci beaucoup. Ça va faire jaser. Bonne journée. Calvin Veltman est sociologue, démographe, sociolinguiste. Mais je vous le dis, ça vient un peu donner ça dans une autre direction, dans tout le débat qu'on a actuellement, surtout sur la protection du français. Puis le gouvernement qui répète que l'idée aussi, c'est de ne pas imposer le français au cégep, là, donc, mais s'assurer qu'il y a une connaissance du français. Puis en même temps, baisser le nombre d'admissions dans les institutions anglophones.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.